Deux mois après que Donald Trump a durci le ton contre la Russie, pris des sanctions secondaires sur le pétrole russe et suggéré sur Truth Social que l'Ukraine pourrait reprendre son territoire, nouveau round de négociations et douche froide pour les Européens et l'Ukraine qui se voient présenter un plan de paix qu'ils désignent comme une capitulation pure et simple. Il faut dire qu'entre les deux épisodes, les Russes ont recommencé à avancer, lentement mais sûrement, et menacent ou ont pris plusieurs bastions importants de la ligne de front, Pokrovsk, Kupiansk, Ouleypol, Siversk. Assiste-t-on encore une fois à la même séquence que plusieurs fois déjà depuis le début de l'année nous avons pu voir, ou doit-on craindre cette fois-ci que Trump contraigne l'Ukraine à la paix, quoi qu'il en coûte? Bonsoir, je suis Philippe Fabry, nous sommes le 22 novembre 2025, il est 21h32, bienvenue dans cette émission que j'ai failli ne pas faire parce que j'étais presque encore plus épuisé que la semaine dernière, parce que j'ai passé une partie de la semaine en garde à vue, je me suis couché à... Enfin, j'ai dormi que 4 heures pendant une des nuits, et à 40 ans, mine de rien, on récupère moins bien le sommeil que qu'à d'autres moments, donc... Mais je suis quand même là ce soir. Pensez-y au moment de tiper. C'est le live hebdomadaire, donc ça sera suivi par le live privé des souscripteurs. Mais je répondrai encore une fois aux questions dont à la fin de cette émission. Alors, on va passer. Oui, j'étais en garde à vue, puisque je rappelle que je suis avocat, n'est-ce pas? Donc je vais assister déjà en garde à vue. Je ne suis pas moi-même arrêté, ça ne m'est pas encore arrivé. Et j'espère que ça m'arrivera pas parce que pour les voir de près, c'est pas agréable, ne serait-ce qu'au niveau olfactif. Donc du coup, j'étais quasiment parti même pour faire simplement un live privé des abonnés. Donc, mais vous y avez échappé en raison de l'actualité. J'ai pensé que je ne pouvais pas passer à côté de ça pour faire un petit peu le service après-vente de ce que je dis d'habitude et aussi revenir là-dessus. Alors. On va détailler le plan tout simplement. On va prendre le temps de le prendre dans son ensemble. On va essayer de voir vers quoi ça va, de se souvenir dans quel contexte c'est émis, d'essayer de réfléchir calmement pour savoir si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose et dans quel selon quels critères, surtout bien entendu. Puisque donc je vais le reprendre dans un instant avec vous, mais je tiens à ceux que vous gardez en mémoire, je ne doute pas que nombre d'entre vous le font, mais j'aime toujours le préciser, gardez en mémoire que contrairement à la plupart des commentateurs de tous bords qui commentent, qui peuvent avoir des... Alors comme tout le monde, j'ai des affects naturellement dans ce conflit, mais disons que la différence, c'est que grâce à travers l'historionomie, on a une idée de vers quoi tout ceci va. Je reviendrai dessus un petit peu plus tard, mais normalement, si vous suivez la chaîne habituellement, vous savez qu'ici, on est convaincu que de toute façon, il y aura une guerre entre l'OTAN et la Russie. Que l'Ukraine, c'est une étape. À partir de là, à partir du moment où vous savez que cette guerre est inévitable, un éventuel accord de paix avec autour de l'Ukraine, ça n'est qu'un passage. Donc forcément, vous et moi, on ne perçoit pas ça avec le même enjeu que les autres. Les autres, pour eux, ça peut définir le destin de l'Ukraine, éventuellement. En ce qui nous concerne, on sait que ça ne va pas le définir très longtemps. En revanche, si jamais il y avait un accord qui était conclu, la grande différence, c'est que il y a 2 mois, quand je vous parlais, d'ailleurs j'avais fait des émissions là-dessus, je disais qu'on serait orienté vraisemblablement, de manière assez certaine, vers un scénario japonais, hein, dans lequel la Russie serait poussée à l'escalade en raison de ses difficultés pour tenter de les surmonter en Ukraine. Si jamais un accord était conclu, on en est encore très loin, j'insiste, je vais y revenir, mais si jamais un accord était conclu, éventuellement ça nous ferait basculer vers un scénario allemand qui, malgré tout, à la fin, a une guerre aussi. Donc ça change pas grand-chose. Voilà, c'est ce que je tiens à ce qu'on ait en arrière-plan en tête au moment d'examiner ce plan de paix. Il y a aussi quand même, oui, autre chose qu'il faut avoir en tête, c'est du coup tout ce qui se passe dans la mentalité des gens qui commentent. C'est normal que les gens soient catastrophés par que certes, que les gens qui sont catastrophés soient catastrophés. C'est normal que les gens qui ne sont pas catastrophés, qui sont favorables au plan tel qu'il est, ne le soient pas non plus. Puisque, rappelons-le, tout le monde dans cette circonstance, il n'y a pas que les Russes hein, qui sont un impérialisme revanchard, mais je rappelle que. Il y a plusieurs acteurs et que nous-mêmes en Occident nous jouons la partie habituelle avec j'y reviendrai le syndrome du vainqueur de la guerre d'avant etc. Et donc on suit nos propres névroses aussi et donc c'est normal d'aller dans ce sens-là et donc ça n'a rien de choquant en soi, ça peut être considéré comme navrant, notamment quand on dit qu'on n'apprend jamais de nos erreurs, malheureusement c'est ainsi. Alors on va reprendre le plan de paix lui-même tel qu'il est sorti et dont on a une bonne vision maintenant. Alors je ne perdrai pas de temps à savoir si Witkoff l'a collé, copié-collé de certaines demandes russes comme ça a été dit. C'est pas impossible que ce soit en partie le cas. De savoir si ça a été dicté par les Russes. Vraisemblablement les Russes n'en ont pas eu. En tout cas ils ont dit qu'ils n'en avaient pas eu communication. Ensuite ils ont dit que ça leur avait été communiqué. Mais l'envoyé de la Russie, Dmitri Kirillov, je crois qu'il s'appelle, a eu l'air de penser que c'était acceptable. Est-ce que ça veut dire que Poutine pense que c'est acceptable? Est-ce qu'il essaie de gagner du temps, etc. On y reviendra dans un instant, et éventuellement au fur et à mesure. Enfin, je tiens à vous dire ce qui est sorti, c'est-à-dire qu'il y a le document officiel, en gros, qui d'ores et déjà est considéré comme une base de travail par même les alliés de l'Ukraine qui ne sont pas d'accord. Voilà ce que ça dit. Alors, donc voici les 28 points. Donc, je vais vous commenter un par un, je ne les lis pas d'abord, hein, on les lit au fur et à mesure. Premier point, la souveraineté de l'Ukraine sera confirmée. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça que c'est dit en anglais, c'est aussi will be confirmed apparemment. Donc l'idée c'est de confirmer la souveraineté de l'Ukraine sur son territoire. Ça va plus loin qu'une simple affirmation, parce que vous allez voir dans ce qu'on va détailler par la suite, que. Il est, semble-t-il, question de maintenir l'affirmation de souveraineté, effectivement, de l'Ukraine sur son territoire, même si elle ne sera pas concrète dans les faits, en fait. Deuxièmement, un pacte de non-agression sera signé entre la Russie, l'Ukraine et l'Europe. Alors, le problème avec ça, et naturellement, c'est ce qu'on dit côté ukrainien comme côté européen, c'est que les pactes avec la Russie, on sait ce que ça vaut. Avec la Russie de Poutine, c'est-à-dire rien. Ce qui vaut également pour le point 3, qui dit que la Russie n'envahira pas les pays voisins en échange de quoi l'OTAN ne s'étendra plus, mais ça c'est quelque part une extension à d'autres pays que l'Ukraine, hein, la Géorgie, etc. Alors le problème avec cette clause, c'est que c'est une clause forcément qu'il faut signer si vous faites la paix avec la Russie. Et donc, elle met face à une forme d'aporie qui peut y avoir dans la façon dont les Européens prennent les choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la Russie, de toute façon, elle est là. Alors, on espérait que la Russie de Vladimir Poutine ne soit plus là, c'est-à-dire que Poutine ne soit plus là. Mais le fait, c'est qu'en l'état, la seule alternative à battre Vladimir Poutine, c'est de faire la paix avec Vladimir Poutine. Et donc de signer un accord avec lui, dans lequel il promettra. L'ennui, c'est que si vous estimez que Vladimir Poutine est totalement incapable de tenir sa parole là-dessus, ça veut dire que vous ne pouvez pas signer de paix avec Vladimir Poutine, et que donc vous ne pouvez que battre Vladimir Poutine. L'ennui, c'est qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut que vous vous donniez les moyens de battre Vladimir Poutine et que vous soyez décidé de battre Vladimir Poutine. Et là-dessus, l'ennui, c'est que les Européens, même s'ils hurlent sur le fait qu'il faut battre Vladimir Poutine et que donc il est hors de question de signer avec lui, jusqu'ici, ne nous donne pas les moyens de battre Vladimir Poutine. Et si je dois faire une petite halte sur ce sujet, parce que c'est quand même, à mon avis, assez central, quelle est la stratégie actuelle des Européens si on les suit? La stratégie actuelle des Européens, c'est en gros, faut aider l'Ukraine jusqu'à ce que l'Ukraine gagne et regagne son territoire. Voilà. Et tant que l'Ukraine veut se battre, on l'aide à se battre. Ce qui est tout à fait honorable, hein, je ne critique pas. Maintenant, il faut se rendre compte de ce que ça veut dire quand même concrètement. Et cela. Quelle que soit l'hypothèse de fond, c'est-à-dire que juste ce soit les Ukrainiens qui veulent se battre et les Européens qui décident de les aider tant qu'ils le veulent, ou que ce soit les Européens qui veulent que les Ukrainiens se battent. Que ce soit un cas ou l'autre, moralement, vous y mettez ce que vous voulez, mais ça ne change rien au fait que techniquement. Il faudra encore un moment, probablement au moins un an et plus probablement deux ou trois. Ça dépendra de si la Russie elle-même continue à augmenter ses fournitures d'armes. pour, et même, à limite, ça peut être tendanciellement infini, puisque la Chine a déclaré aux Européens qu'il ne lui était pas tolérable que la Russie perde en Ukraine. Donc, ça veut dire qu'il faut arriver à un moment où la production militaire européenne serait largement supérieure à celle de la Russie pour permettre aux Ukrainiens de gagner matériellement, parce que c'est comme ça une guerre industrielle, ce que c'est actuellement, pour gagner. Bon, sachant que d'un, donc ça veut dire qu'il faut à la fois dépasser la production de la Russie, ça je dis c'est faisable probablement en 2 ans, en mettant un gros coup de collier et en espérant que la production russe n'augmente plus. Et en espérant aussi donc que les Chinois ne fournissent pas trop de trucs aux Russes, parce que si les Chinois se mettent à fournir massivement, donc en escomptant que les Chinois aient toujours peur des sanctions, si les Chinois se mettent à fournir massivement à la Russie, ça devient très compliqué pour les Européens de véritablement battre industriellement le bloc. En tout cas, ça repousse encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant ce temps-là, les Ukrainiens continue à mourir à peu près au même ratio, et les Russes continuent à progresser à peu près au même ratio. Ça veut dire que, grosso modo, la stratégie éventuelle européenne consiste à dire, vous pourrez commencer à avancer dans 3 ans, alors que peut-être dans 3 ans, il n'y aura plus assez de soldats ukrainiens, ou que démographiquement, ça commencera à poser un vrai problème pour que l'armée ukrainienne continue à se battre. Notamment parce qu'on a déjà perdu beaucoup trop de temps ces dernières années. Mais en plus, même si les Ukrainiens ont toujours assez d'hommes, ce qu'on peut souhaiter, ça voudrait dire que, et c'est là qu'il y a quand même une forme de calcul cynique de la part des Européens, comme les Européens n'ont pas l'intention de se battre, c'est pour ça que c'est cynique. C'est-à-dire, si les Européens avaient l'intention de se battre avec les Ukrainiens, ça serait pas cynique, on dirait, bon, voilà. À partir du moment où il n'y a que les Ukrainiens qui sont censés attendre que la machine européenne suive, ça veut dire en gros, si on dit 2 ans, ouais. Encaisser encore entre 200 000 et 400 000 pertes, tout compris, hein, c'est-à-dire morts et blessés ukrainiens. Et là, on pourra vous donner assez pour que vous essayiez de gagner. Si c'est dit dans ces termes, tout de suite, ça vous met pas dans le même rapport sur la paix, surtout si le corollaire de ça, c'est de se dire que pendant encore des mois, les Russes vont continuer à avancer au rythme où ils avancent déjà. Ça peut peut-être les amener pas extrêmement loin. Mais en tout cas, ça veut dire que ça fera encore une différence de terrain pendant ce temps-là. Et c'est à l'aune de ça aussi qu'il faut regarder le plan de paix qui est présenté en face. Donc pourquoi je fais cette incise? Parce que je reviens donc sur le truc. C'est que pour les Européens, malgré tout, c'est un petit peu ça l'idée qu'il y a derrière. C'est-à-dire que si les Européens considèrent que la Russie de Poutine doit être battue, ben, soit ils entrent en guerre directement, et ils entrent vite en production de guerre, etc., et ils se battent eux aussi. Soit ils décident que de soutenir l'Ukraine, mais à ce moment-là, il faut dire nettement aux Ukrainiens, vous allez perdre autant d'hommes d'ici avant que ce qu'on veut vous donner soit efficace. Voilà. Et je trouve que c'est moralement pas correct de pas le dire. Voilà. Ça me pose un petit souci. Et donc c'est pour ça que la position européenne. Encore une fois, je raisonne comme raisonnent les gens qui ont pas forcément de vision du conflit après. Encore que les Européens peuvent avoir une vision du conflit après, ils peuvent être certains que Poutine les attaquera dès que l'Ukraine arrêtera de se battre, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que les Européens préfèrent que les Ukrainiens continuent à se battre, parce qu'en attendant, eux ne sont pas attaqués. Mais dans ce cas-là, c'est également un petit peu cynique, il faut le dire. Et voilà. Et il faut pas, juste quand les Américains présentent un plan de paix, je trouve que c'est un peu hypocrite d'accuser les Américains de capituler devant la Russie. Quand nous, en tant qu'Européens, on se planque derrière les Ukrainiens, d'une certaine manière. Voilà. Je trouve que sur le plan moral, c'est un peu. Je trouve ça hypocrite. Je trouve ça hypocrite. À ce moment-là, qu'on dise aux Américains, non, non, mais c'est pas ça, c'est nos affaires, c'est les affaires du continent européen, on gère, d'accord. Mais leur dire, mais non, c'est une capitulation, je trouve que c'est essayer d'habiller sous une morale qu'on n'a pas vraiment. Quelque chose qui est un combat d'intérêt de la part des Européens. Je ne dis pas que l'intérêt est illégitime. Je dis que, voilà, c'est la façon dont on présente les choses qui doit être en rapport avec aussi. Donc tout ceci, si vous voulez, ces accords avec déjà ça, c'est l'idée que dans l'accord ça commence par le fait que la Russie s'engagera à des trucs et qu'il y aura une paix, déjà ça en soi c'est inadmissible pour les Européens qui n'en veulent pas parce qu'ils font plus confiance à Vladimir Poutine et parce qu'ils ne veulent pas se retrouver directement en guerre avec Vladimir Poutine. Parce qu'en fait, le truc des Européens, c'est que les Européens ne veulent pas se battre avec la Russie. C'est ça, c'est clairement, fondamentalement. J'ai déjà expliqué pourquoi, pour un tas de raisons. Les populations européennes ne veulent pas se battre à la Russie parce que les populations européennes ne veulent pas de guerre avec la Russie. Ne veulent pas de guerre en général. Hein. Ce qui ne veut pas dire que les gens ne se battraient pas en cas de guerre, mais enfin, ils n'en veulent pas. Et les élites européennes aussi... Quoi qu'en disent bêtement d'ailleurs, souvent, parce que vous avez plein de pro-russes qui vont expliquer que les élites européennes veulent la guerre avec la Russie, c'est pas vrai du tout. Les élites européennes, elles veulent pas la guerre avec la Russie. Je répète que la guerre est un processus révolutionnaire, par définition. Donc quand vous entrez en guerre, les élites n'aiment pas entrer en guerre. Alors sauf ça peut être le cas pour se sauver, et peut-être qu'Emmanuel Macron est dans cette position-là, mais toutes les élites derrière, qui sont des gens qui sont plus installés, qui sont même pas forcément des élites. Élus d'ailleurs, hein, donc ils ne craignent pas forcément les élections, ça peut être des élites économiques, etc., des élites médiatiques, les élites au sens large. Les élites n'aiment pas la guerre parce que c'est dangereux. Parce que quand vous faites la guerre, vous envoyez le peuple au front et que vous avez des gens qui reviennent du front qui sont des héros de guerre et qui n'ont pas forcément les mêmes idées que vous, sauf qu'eux se sont battus et pas vous. Hein. Je pense qu'une bonne partie des élites européennes a tout sauf envie de voir revenir des soldats décorés d'extrême droite du front qui viennent leur expliquer qu'il faut arrêter l'immigration. Et ça, vous le verrez. Hein, s'il y a des... Quand vous voyez ce que sont en général les anciens combattants, surtout lors des précédents conflits mondiaux, vous avez une petite idée de ce que ça donnerait par rapport aux élites européennes. D'accord ? Donc il y a ce danger-là. Donc, les élites européennes ne veulent pas la guerre. Elles ont peur de la guerre et elles cherchent à se préparer en espérant que, s'ils se préparent suffisamment, cette guerre n'aura pas lieu. Mais en même temps, ils sont persuadés, d'une certaine manière, qu'elle a lieu. Donc c'est pour ça que c'est un peu pas... Enfin, en tout cas, que les Russes essaieront. Bon. Et donc c'est pour ça que, je disais, il y a ce côté, on se planque derrière l'Ukraine, hein, d'une certaine manière. Bon. Mais donc ce plan-là, qui en soi n'est pas absurde de la part, je veux dire, le fait de décider que la paix, ça se négocie, ben, je veux dire, c'est la définition du truc. C'est-à-dire, vous trouvez un accord à la fin, je veux dire, si vous décidez de faire la paix, de négocier la paix, c'est que vous estimez que il faut signer avec le mec en face. Si vous estimez que le mec en face n'a absolument aucune parole, effectivement, vous refusez toute paix. Bon. Donc ensuite, un dialogue Russie-OTAN sera organisé afin de désamorcer les tensions. Donc ça, oui, pas grand-chose à dire là-dessus. Tout dépend de ce qui sort éventuellement du dialogue. Les États-Unis offriront à l'Ukraine des garanties de sécurité après la guerre. Ça reste évidemment flou. L'armée ukrainienne sera limitée à 600 000 hommes. Elle en compte actuellement 850 000. Alors, ça, c'est vu comme une espèce de catastrophe. Hein. Tout le monde crie, mais comment on veut limiter l'armée ukrainienne ? J'ai même vu Nigel Farage, habituel pro-russe, qui est venu expliquer qu'on ne pouvait pas demander ça aux Ukrainiens. Alors, je suis d'accord qu'on n'a pas forcément à dire aux Ukrainiens ce qu'ils doivent faire. Maintenant, il y a une chose qui est à peu près certaine, c'est que l'armée ukrainienne actuelle, elle est en état de mobilisation générale ou quasi-générale depuis 4 ans. Bon. Baisser de 850 à 600 000 hommes en allant vers la paix, par définition... Je veux dire, c'est assez classique. Je veux dire, quand vous signez la paix, vous démobilisez. Je veux dire, vous maintenez pas autant de gens. Je veux dire, c'est intenable financièrement et économiquement de maintenir sous les drapeaux 850 000 hommes en permanence. Donc le fait que ce soit baissé à 600 000, alors c'est quand même extraordinaire parce que j'ai lu plein de gens expliquer que c'était en gros essentiellement à l'avantage de la Russie, que c'était des cadeaux faits à la Russie, etc. La Russie voulait démilitariser l'Ukraine, ça veut dire que là vous retrouveriez avec une Ukraine qui aurait entre 2 et 3 fois plus d'hommes sous les drapeaux qu'elle n'en avait quand les Russes ont envahi l'Ukraine. Donc comme démilitarisation, on a vu mieux quand même. Alors d'ailleurs il y a un certain nombre de choses, dont celui-là, dont je pense personnellement que c'est inadmissible pour les Russes. Dans la réalité, parce qu'il y a aussi cette question-là, on fait comme si ça, les Russes voulaient que ce soit signé, je suis à peu près sûr que cet accord-là est de toute façon inadmissible par les Russes. Ils ont peut-être fait semblant que c'était admissible pour remettre la pression sur Zelensky, parce qu'ils ont eu l'habileté, hein, ils ont vu, ils sont pas débiles, hein, que les fois précédentes, quand Zelensky avait l'air de dire ah, « moi ça me plaît pas trop ce plan, etc. », ça avait tendance à énerver Trump, qui disait « vous voulez pas la paix ». Et donc il y a toute une espèce de jeu très pervers d'image, mais ça j'en ai déjà parlé maintes fois dans les précédentes émissions sur le sujet, qui consiste à la fois pour les Russes et pour les Ukrainiens, à faire peser le fardeau du refus de la paix sur l'autre. Ce qui est plus difficile pour les Ukrainiens, paradoxalement, parce que c'est toujours eux qu'on vient voir les premiers. Donc les Ukrainiens sont toujours obligés de faire une espèce de pari sur le fait que le truc sera inacceptable en face, et de dire oui en ayant la foi en Poutine, finalement, en l'intransigeance de Poutine, pour que Poutine, lui, derrière, le refuse et que celui qui passe pour le méchant. Et c'est tout, c'est un gros problème de communication dont je parle depuis le début, sur lequel Zelensky a fauté une ou fois ou deux, ce qui, encore une fois, se comprend, mais malheureusement, c'était une faute. Et quand il a réussi à le faire, à chaque fois, finalement, ça a plutôt profité à l'Ukraine. La question, c'est que comme ce plan-là est présenté comme acceptable vraiment pour les Russes, le pari semble plus risqué. C'est-à-dire qu'en gros, si les Ukrainiens acceptent et que derrière les Russes acceptent, ben forcément, après les Ukrainiens sont piégés, quoi. Bon. Mais encore une fois, ça fait partie des éléments qui me font penser que, en l'état, c'est inacceptable pour les Russes. D'ailleurs, Vladimir Poutine a dit, en gros, oui, il y aura quelques points à régler, à mon avis. C'est clair qu'il ne veut pas d'une Ukraine qui a 600 000 hommes sous les drapeaux avec des garanties de sécurité américaines. Bref. Je continue. L'Ukraine révisera sa constitution déclarant qu'elle ne rejoindra jamais l'OTAN. Bon, maintenant, si elle est armée par l'OTAN, les pays européens, et qu'elle a 600 000 hommes sous les drapeaux, voilà, et qu'elle a des garanties de sécurité américaines, ça fait vraiment pour vous faire plaisir, quoi. Mais ça vaut pas grand-chose. Encore une fois, je serai russe, je regarderai cette clause avec beaucoup de méfiance. Point numéro 8, l'OTAN ne déploiera pas de troupes en Ukraine. Ceci n'inclut pas le plan de la coalition des volontaires pour le maintien de la paix mené par le Royaume-Uni et la France. Ce plan reste à l'étude. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la base, on vous avait dit qu'il n'y aura pas de soldats français et anglais en Ukraine parce qu'il n'y aura pas l'OTAN. Bon. Vraisemblablement, le plan le plus affiné en tout cas que j'ai vu passer hier et que j'ai relu aujourd'hui, ça n'inclut pas la coalition des volontaires. C'est-à-dire que la coalition des volontaires, UK, pardon, et quelques autres pays éventuellement, ça n'est pas considéré comme des troupes de l'OTAN. Donc ça veut dire que vous pourriez avoir des troupes de l'OTAN qui ne sont pas des troupes de l'OTAN officiellement, mais qui sont des troupes de pays membres de l'OTAN. Donc on revient à ce que je vous disais déjà l'année dernière, quand Vance avait présenté ce qui était à peu près ce plan de paix déjà, hein. Parce qu'en fait, ils ne bougent pas de cette idée-là, les Américains. Le seul truc qui a un peu changé, je vais y revenir, c'est le fait de lâcher le Donbass. Bon. Mais c'est le seul truc, quoi, la seule adaptation par rapport à ce qu'on a vu depuis le début de l'année. Et ce plan n'est jamais passé. Bon. Ni voulu par les Russes, ni voulu par les Ukrainiens. Mais donc ça, en plus, je veux dire, ça revient à dire aux Russes, vous aurez désormais une Ukraine à 600 000 hommes, et en plus, il y aura des troupes probablement françaises et anglaises sur le territoire. Voilà, à mon avis, inacceptable par les Russes, encore une fois. Et je veux dire, c'est pas des petites concessions. Je veux dire, quand on dit que c'est un plan qui a été voulu par les Russes, ça serait des grosses concessions de la part des Russes d'accepter ça, hein, par rapport à leur but de guerre initial. C'est pour ça que je pense qu'ils ne l'accepteront pas. Point numéro 9. Le Royaume-Uni et l'Union européenne stationneront des avions de chasse en Pologne. Donc ça, c'est ce qu'ils font déjà, n'est-ce pas ? C'est les avions de chasse en Pologne, c'est donc juste derrière l'Ukraine. Je veux dire. Donc ça veut dire prêt à intervenir si jamais il y avait quelque chose. Et puis c'est toujours face à la Biélorussie, etc. Et je rappelle que parmi les buts de guerre affichés, et même c'était les buts de guerre affichés de Vladimir Poutine en décembre 2021, il y avait la volonté de faire reculer l'OTAN à ses frontières pré-97, donc ce qui était les frontières 1991 en réalité, c'est-à-dire pas au-delà de l'Allemagne de l'Est, pas de troupes de l'OTAN au-delà de l'Allemagne de l'Est. Et là, en gros, le plan prévoit explicitement que quelque chose qui a déjà lieu aura lieu, c'est-à-dire qu'il y aura l'OTAN en Pologne. Donc ça aussi, on est complètement contraire au but de guerre de Vladimir Poutine. Point numéro 10. Si l'Ukraine envahit un territoire russe, elle perdra les garanties de sécurité américaines. Si la Russie envahit l'Ukraine, outre une riposte militaire coordonnée entre les États-Unis et l'Ukraine, ça veut dire, et ça c'est intéressant, que les garanties américaines de sécurité restent à définir, mais que vous avez ce point-là qui vous dit que si la Russie envahit l'Ukraine, il y aura, à minima, une riposte militaire coordonnée entre les États-Unis et l'Ukraine. Donc ça veut dire si l'Ukraine est re-envahie, les Américains riposteront contre les Russes. Donc c'est quand même une garantie de sécurité qui est déjà d'un certain niveau. Bon. Et outre ça, toutes les sanctions seront rétablies, la reconnaissance des nouveaux territoires ainsi que tous les autres avantages de cet accord seront annulés. Donc l'accord est quand même très sanctionné. Il ne s'agit pas juste de faire confiance à Vladimir Poutine. On prévoit d'ores et déjà que s'il ne respecte pas l'accord, ce qui est un minimum, ben, non-exécution, tout est annulé. Point numéro 11, l'Ukraine sera autorisée à rejoindre l'Union européenne. Alors Vladimir Poutine a toujours dit que pour lui c'était pas un problème. Moi je suis persuadé que c'est un énorme problème pour Vladimir Poutine que l'Ukraine rejoigne l'Union européenne. Hein, ça je suis persuadé, c'est aussi grave que l'OTAN en fait. Mais bon, il fait semblant que non. Point numéro 12, la création d'un fonds de développement pour l'Ukraine soutenu par la communauté internationale qui contribuera à la réhabilitation, la reconstruction, au développement industriel et à l'extraction de terres rares après la guerre. Donc ça, il y a l'idée de reconstruire l'Ukraine. Point numéro 13, levée progressive des sanctions pesant sur l'économie russe afin de permettre sa réintégration dans l'économie mondiale et la Russie sera invitée à rejoindre le G8. Alors ça, c'est bien gentil, mais très très compliqué à faire ça. Est-ce qu'on imagine Vladimir Poutine aller serrer des louches au G8 avec les pays européens et le Japon qui lui feraient des risettes? J'ai de très gros doutes là-dessus. J'ai même beaucoup de mal à y croire. Et ça fait partie des choses. Alors Vladimir Poutine, lui, sans doute qu'il adorerait. Mais ça, du côté européen, ça passera pas. Enfin, ça passera pas. Mais ça rejoint les premiers points, j'ai envie de dire, dont j'ai parlé tout à l'heure. Point numéro 14. 100 milliards de dollars d'avoirs russes gelés serviront à financer la reconstruction de l'Ukraine. Le reste, principalement européen, sera dégelé. Donc ça veut dire que sur les, je crois qu'il y a à peu près 200 milliards qui sont gelés en Europe, il y en aurait la moitié qui serait restituée à la Russie, l'autre moitié qui servirait à reconstruire l'Ukraine. C'est quand même une concession russe, ça aussi, hein. 100 milliards, c'est pas une paille. Alors, vu ce que perdent les Russes, avec les sanctions pétrolières, les Russes perdent à peu près plus de 20 milliards par an. Donc ça représente 6 signes. Quelque part, c'est comme s'ils perdaient d'un coup 5 ans de sanctions. C'est pas, à mon avis, ça fait pas partie des choses que les Russes feront avec plaisir, ça. 15. Une ligne conjointe américano-russe sera établie pour assurer le respect du présent accord. Bon, une espèce de retour du téléphone rouge. 16. La Russie adoptera une loi renforçant son pacte de non-agression avec l'Ukraine et l'Europe. Alors ça, je suppose que c'est une garantie juridique en droit interne qui devrait être prise. Point 17. Les États-Unis et la Russie prolongent le traité nucléaire START. Point 18. L'Ukraine ne cherchera pas à se doter de l'arme nucléaire. Point 19. L'AIEA prendra le contrôle de la centrale nucléaire de Zaporijjia, qui est actuellement sous contrôle russe. L'électricité sera distribuée à part égale entre l'Ukraine et la Russie. C'est-à-dire surtout la partie russe, la partie contrôlée par la Russie de l'Ukraine. Les deux pays mettront en œuvre des programmes éducatifs promouvant la tolérance. Toutes les idéologies nazies doivent être proscrites. Donc ça, on sent l'obsession de Poutine. C'est peut-être là que ça a été recopié par Witkoff. Point très important, point numéro 21. L'Ukraine se retirera du reste des régions de Donetsk et de Lugansk. Alors Lugansk, ça représente pratiquement pas grand-chose, pratiquement rien. Attendez, je vais essayer de vous sortir. On va essayer d'aller voir, peut-être sur Deep State. Ouais. J'essaie de vous montrer sur Deep State. Est-ce que je l'ai affiché? Non, pas encore. Tac. Je vais me décaler. Oh, attends. Oh, de l'autre côté. De l'autre côté. De l'autre côté. Voilà, très bien. Alors, j'essaie de vous montrer. Donc, là, je vais enlever des trucs parce que c'est. Non, c'est pas ça. C'est ça. Je vais tout enlever. Voilà. Histoire qu'on ait juste la carte. Alors, donc. Luhansk, ça représente un petit morceau ici, là. C'est ici, je pense, qui est pas tenu par les Russes, donc ça fait vraiment, vraiment pas grand-chose. L'ensemble de Donetsk, ça ferait tout ce morceau-là. Voilà. Tout ça, là. Tout ça. C'est ça qui manque. Voilà. D'accord? Donc ça fait effectivement un gros morceau, et puis c'est là qu'il y a les bastions très importants de Sloviansk et Kramatorsk, qui en gros après c'est beaucoup de la plaine, et donc la capacité russe de menacer Pavlorad et éventuellement Dniepropetrovsk, Donc c'est naturellement un sacrifice important de la part des Ukrainiens que de lâcher cette région-là. Maintenant, ce qu'il faut voir pour interpréter totalement ça, c'est qu'en face, les lignes de Zaporijjia et de Kherson seront gelées. Alors il faut savoir que en direction Zaporijjia, les Russes sont pas mal avancés depuis un mois. Regardez, je vous montre là, vous voyez. Je reviens un peu en arrière. On va revenir en arrière de, je sais pas, on va remonter d'un mois, voilà, jusqu'au 22 octobre. D'accord. Alors vous regardez, j'essaie de vous agrandir. Voilà, vous regardez ici, là, en direction de Douloupol, donc direction Zaporijjia. Vous allez voir que ça a quand même avancé. Les Russes ont fait un bond d'un peu plus de, ouais, 10-12 km, un truc comme ça. D'accord. Et en plus, ils risquent de contourner un certain nombre de défenses bien établies. Donc il y a danger dans cette direction, hein, depuis un mois. Et donc, pour les Ukrainiens, ce serait quand même très avantageux que ça s'arrête de bouger, que les Russes s'arrêtent d'avancer dans cette direction. Parce que très honnêtement, ce que les Russes sont en train de faire dans cette direction est dangereux. C'est moins inquiétant du côté de Kherson, parce que pour remettre le pied à Kherson, il faut que les Russes traversent. Mais voilà, alors sachant que... Bon, je vous fais tout le truc et après on discutera des avantages et des inconvénients. La Russie se retirera de Kharkiv, de Dnipropetrovsk et de Soumy. Alors donc ça veut dire de la région de Dnipropetrovsk, ça veut dire qu'il faut se retirer de là. Oui, c'est pas grand-chose, c'est à la jointure là. En revanche, de Kharkiv et Soumy, ça veut dire qu'il faut partir de là et de tout ça là. Tout ça. C'est où elle est la frontière, voilà. Tout ça, d'accord? Donc ça veut dire que à peu près en gros les Russes se retireraient d'un tiers de territoire de moins. Ça se voit, ça fait un tiers à peu près de ce qu'ils gagneraient ici gratuitement. Mais en même temps, ils arrêteraient de progresser dans ce sens-là. Bien sûr, le territoire ici, à Slovensk-Kramatorsk, qui sont, on va dire, une valeur stratégique plus importante que les bords qu'ils ont pris sur la frontière. Mais en quantité de terrain, voilà, bon, c'est à la fois du terrain plus qualitatif et plus important que les Russes gagneraient. Mais néanmoins, il y aurait quand même des avantages pour les Ukrainiens, c'est que ça arrêterait d'avancer et qu'ils récupéreraient une partie du territoire. Alors que les Russes ont quand même beaucoup piétiné pour récupérer tout ça, notamment pour aller se remettre autour en direction de Kupiansk là. Par ailleurs, il faut ajouter ceci. Les forces russes ne seront pas autorisées à entrer dans la région de Donetsk actuellement sous contrôle ukrainien. Bien que cette région soit reconnue comme russe, elle restera une zone tampon démilitarisée internationalement reconnue. Alors ça veut dire que, en gros, le Donbass serait reconnu comme russe, donc là pour le coup c'est une annexion. Par contre, le terrain qui serait donné aux Russes, les Russes n'auraient pas le droit d'y aller militairement. Donc ça veut dire que l'idée c'est que le fait de céder ce territoire de la part des Ukrainiens ne devrait pas leur causer un préjudice stratégique, c'est ça l'idée de l'accord en tout cas, parce que ça ne permettrait pas à l'armée russe d'avancer jusque-là. En tout cas, c'est ce qui est dit dans l'accord. Après, encore une fois, il faut faire confiance aux Russes pour pas qu'ils avancent. Mais si l'accord était respecté tel quel, encore une fois, c'est pas déconnant. C'est vous cédez le territoire, mais vous, y aura pas, l'armée n'ira pas. Donc ça sera bloqué. Alors, pour essayer de voir tout ça, ce que ça veut dire. Quelle équipe de ça? Déjà, il faut voir, donc je vous dis, les points avantageux pour l'Ukraine, c'est que ça n'avance plus, que grosso modo, ben, ils arrêteraient de perdre des gens pendant au moins quelques années. Alors peut-être que les Russes se réarmeraient, etc., on ne sait pas, mais les Ukrainiens arrêteraient de perdre du monde pour juste tenir du territoire pour faire plaisir pour défendre les Européens. Sachant que pendant ce temps, si jamais la paix durait quelques mois ou quelques années, il faudrait compter que les Européens continuent de se réarmer. Et donc éventuellement, je disais tout à l'heure, les Européens actuellement, ce qu'ils peuvent dire aux Ukrainiens, c'est vous continuez à vous battre, et quand vous aurez perdu 200-400 millions de plus en fonction du temps que ça nous prend, on pourra enfin vous donner assez de choses pour gagner. Bon, là, l'idée de l'accord de paix, c'est soit l'accord de paix tient, et tant mieux, soit l'accord de paix tient pas, et espérons que dans ce cas-là, on fait un bond temporel jusqu'au moment où les Européens seront prêts militairement, sauf qu'en attendant, les Ukrainiens n'auront pas perdu ces 200 ou 400 000 hommes. Ce qui est, qui a quand même un intérêt en soi. Bon. Et l'autre intérêt en soi, ce serait que, encore une fois, les Ukrainiens arrêteraient de reculer. La perte de Donetsk, il faut se rendre compte qu'au rythme où les Russes avancent actuellement, probablement que dans un an et demi, on peut dire que clairement Slovensk et Kramatorsk seront tombés. hein, vu que Sivers qui est en train de tomber, Pokrovski Mirnorad c'est terminé, donc après ça avancerait en ce sens-là. Alors je dis pas que ça sera fait demain, mais dans un an et demi, même au rythme actuel, hein, quand vous vous souvenez qu'ils ont pris tout ça, les Russes là, tout ça depuis un an, ça fait à peu près équivalent. Hein, donc ou en tout cas dans un an, Slovansk et Kramatorsk seraient en gros assiégés, et donc ça prendrait pas plus longtemps. Donc est-ce que ça vaut le coup? Je veux dire, l'idée de l'accord américain, en fait, c'est dans un an, vous serez dans une situation pire pour négocier, parce que vous leur accorderez quoi aux Russes pour qu'ils arrêtent. Donc voilà, ça, c'est les avantages, on va dire, que les Ukrainiens peuvent en tirer en récupérant en plus du territoire. Donc c'est pas non plus une capitulation quand vous récupérez du terrain en échange. Bien sûr, c'est une capitulation par rapport à l'état pré-guerre, mais encore une fois, il n'est pas question de faire la paix sur une victoire ukrainienne, dans la logique du plan, en tout cas, encore une fois. Hein. C'est là-dessus que je parle. Alors néanmoins, très honnêtement, moi j'ai énormément de mal à croire que les Russes puissent accepter, un, qu'on leur accorde le Donetsk en entier, mais qu'ils n'aient pas le droit d'aller à Slovyansk et Kramatorsk. Deux, qu'ils rendent Kupiansk qu'ils ont réussi à reprendre. Trois, qu'ils renoncent à aller prendre Zaporizhzhia et Kherson, qui sont les deux capitales de deux des régions qu'ils ont annexées quand même. Et qui, dans la constitution russe dorénavant, ces régions sont considérées comme intégralement russes. Et les Russes devraient accepter de ne pas en prendre le contrôle, et d'y renoncer explicitement. C'est quand même des pilules qui, à mon avis, sont difficiles à avaler pour les Russes, et je les vois mal accepter de les avaler. C'est pour ça qu'encore une fois, je pense que cet accord n'est pas plus acceptable par les Russes que les accords précédents. À point 22, aucune des deux nations ne cherchera à modifier ses arrangements territoriaux par la force à l'avenir. Point numéro 23, la Russie n'empêchera pas l'Ukraine d'utiliser le fleuve Dniepr pour des activités commerciales, c'est-à-dire qu'en fait la Russie n'aura pas le droit d'utiliser le fait qu'elle est sur le bord pour empêcher la navigation sur le Dniepr, donc le Dniepr devrait être réouvert tranquillement. Point numéro 24, un comité humanitaire sera mis en place, un échange général de civils, de prisonniers de guerre et de soldats décédés aura lieu. Alors est-ce que ça veut dire notamment qu'en gros si les Ukrainiens qui sont à Slovansk et Kramatorsk préfèrent en majorité fuir en Ukraine plutôt que d'être sous domicile russe pourront foutre le camp? C'est possible, surtout que visiblement l'armée russe ne pourra pas y aller pour les en empêcher. Donc si ça se trouve ils se retrouveront avec deux villes vides, hein, les Russes. Enfin ils se retrouveraient. Point numéro 25, l'Ukraine tiendra des élections présidentielles dans les 100 jours. Ce qui paraît logique, hein, puisqu'à partir du moment où la paix est faite, Zelensky n'a plus de raison de rester au pouvoir sans élection. Après qu'il soit réélu, ça, c'est tout à fait plausible. Point numéro 26. Toutes les parties impliquées dans ce conflit bénéficieront d'une amnistie totale pour leurs actions pendant la guerre. Alors ça profite naturellement à la Russie, hein, en raison des crimes de guerre qui ont été commis, notamment à Boutcha et d'autres endroits. Les exécutions de prisonniers ukrainiens, etc. On en voit malheureusement régulièrement. Point numéro 27, l'accord sera juridiquement contraignant et sera supervisé par le Conseil de la paix dirigé par le président des États-Unis. J'avais vu mentionner à la base Donald Trump, mais a priori c'est le président des États-Unis. Point numéro 28, dès que les deux parties auront accepté l'accord, un cessez-le-feu immédiat entrera en vigueur dans les airs et en mer. Les deux parties entameront un repli militaire vers les points convenu. Donc on est encore sur l'idée quand même de cesser le feu immédiat de Donald Trump. Donc voilà quel est le plan qui est proposé. Un plan qui est proposé qui n'est pas, si vous êtes sur l'idée qu'il faut faire la paix, après vous pouvez décider que c'est pas le cas, comme j'ai dit, je parlais des Européens tout à l'heure, mais si vous êtes dans l'idée qu'il faut faire la paix, c'est pas un deal. Alors c'est catastrophique pour l'Ukraine dans le sens où par rapport à sa situation pré-guerre, effectivement c'est catastrophique, et ils ont perdu beaucoup de terrain, etc. Maintenant, c'est pas catastrophique par rapport à la situation actuelle. C'est un deal qui a des avantages pour l'Ukraine, c'est un deal qui malgré tout demande des concessions à la Russie. Alors je sais que il y a beaucoup de... pour des raisons morales, il est difficile de dire que c'est demander une concession à la Russie que de lui demander d'arrêter d'avancer, mais à partir du moment où vous avez un agresseur qui avance, qui n'a rien à foutre d'encaisser des pertes, et qui veut continuer, et qui continuera malgré les sanctions, qu'il s'arrête sur sa ligne, c'est effectivement une forme de concession, malgré tout. Ce qui est malheureux, c'est que vous ne puissiez lui demander que ça de concession par rapport à la force que vous-même avez engagée dans le combat. Vous pourriez lui demander plus de concessions si vous engagez plus de force. Visiblement, c'est difficile d'obtenir plus à ce stade-là. Donc c'est pas totalement déconnant. Expliquer que les Américains sont ridicules, que Trump lâche complètement l'Ukraine, que c'est une trahison, etc., c'est faux. À ce stade-là, moi j'ai du mal à considérer que ce soit vrai et que ça puisse être, être vu comme ça. Maintenant, alors attendez, je vais quand même vérifier parce que il me semble que j'ai pas parlé de la Crimée et qu'il n'est même pas question de Crimée en fait. Alors je vais vérifier si s'il y a une autre version plus précise du texte qui est sorti. J'ai l'impression que c'est exactement la même chose. Alors voyons, les voilà. Alors, on va chercher Crimée. Zut. Ah si, voilà. Alors je me souviens pas vous l'avoir lu comme ça. Ouais, parce que c'était pas formulé exactement pareil dans la version que j'ai. Donc ce serait la Crimée, Lugansk et Donetsk seront reconnus comme des régions russes de facto. Ça c'est important. Parce que Kherson et Zaporizhzhia seront gelés le long de la ligne de contact, ce qui signifiera une reconnaissance de facto le long de cette ligne. La Russie renoncera aux autres territoires qu'elle contrôle en dehors des cinq régions. Les forces ukrainiennes se retireront en partie de la région nord du Canada. Voilà. Donc ça c'est ce que j'ai dit aussi. Du coup, je vais vérifier ce qu'il en est de l'histoire de la coalition des volontaires, puisque c'est peut-être pas la même formulation. En tout cas, ça qui est important, ça précise le statut. Quand vous avez le premier point qui dit que la souveraineté de l'Ukraine sera confirmée, ça veut dire que juridiquement, c'est vrai. C'est-à-dire que ça sera reconnu comme des régions russes de facto, mais de jure qui restent des régions ukrainiennes. Je suis pas sûr que ce soit très acceptable par les Russes, ça non plus. Hein. Parce que, vous savez, on vous parlait de reconnaissance, qu'en gros, Trump allait reconnaître l'annexion de la Crimée. Reconnaissance de facto, c'est pas exactement la même chose. C'est ok, vous l'avez pris, mais on considère que c'est pas à vous, quoi. Donc c'est un petit peu... je me demande s'il y a déjà des choses qui ont été reconnues de facto, comme ça, faudra que je cherche, en refusant la distinction. Et alors, c'était quoi l'autre point sur... C'était lequel que j'ai dit. C'était le point numéro 8. Alors on va voir comment il est rédigé ici. L'OTAN accepte de ne pas stationner de troupes en Ukraine. Là, c'est pas précisé, mais le commentaire que j'avais lu disait que ça concernait pas la coalition des volontaires. Donc ça, c'est à voir. De toute façon, ça va être rediscuté. Ça va être discuté par les Européens, etc. Enfin voilà, dire que c'est une capitulation dans l'état actuel des combats, du rapport de force, etc., ça me paraît excessif, parce que ce n'est pas un accord qui ne demande aucune concession à la Russie, notamment encore une fois, parce que si vous regardez les buts de guerre de la Russie, on est très loin sur un certain nombre de points. Donc, et l'avantage, c'est que c'est un accord qui immédiatement économiserait le sang ukrainien. Parce qu'il y a aussi un truc qui est assez sûr dans la stratégie ukrainienne, qui est vraisemblable, c'est qu'il y a un certain nombre d'endroits où les Ukrainiens ont essayé de tenir jusqu'au dernier moment. On a le sentiment, essentiellement, pour que ça ne se voit pas sur la carte qui recule, parce que les Ukrainiens, comme ils ne sont pas dépendants, comme ils sont énormément dépendants de l'étranger pour leur machine de guerre, ils sont obligés de communiquer médiatiquement en permanence sur le fait qu'ils peuvent gagner. Un pays qui serait en guerre, mais qui serait autonome, qui aurait sa base industrielle de défense qui serait suffisante, etc., vraisemblablement qu'il aurait parfois cédé du terrain pour économiser du sang. Donc c'est aussi un des problèmes particuliers de la situation militaire et stratégique ukrainienne qui fait ça. Donc voilà pour cet accord. Alors moi, encore une fois, de ce que je vous ai dit, je pense que c'est un accord qui n'est pas je le vois pas acceptable par les Russes, pour toutes les raisons que je vous ai dites, pour une raison après l'autre, etc. Maintenant, la question de savoir, c'est est-ce qu'il peut être acceptable pour les Ukrainiens. Je vous ai dit qu'il y avait des avantages. Il y a aussi des inconvénients qui sont la peur de se faire bouffer dans quelques années quand on aura laissé les Russes se reconstruire. L'idée qu'on ne sait jamais aussi, peut-être que si jamais les Russes décidaient de réattaquer, cette fois-ci, plus personne n'aurait rien à foutre et laisserait les Ukrainiens se laisser envahir. C'est possible, hein, si vous repensez à la Tchécoslovaquie en 1938, vous avez eu l'accord sur les Sudètes. Et après l'accord sur les Sudètes, 6 mois après, Hitler a envahi la Tchécoslovaquie, le reste, il a établi le protectorat de Bohême-Moravie et personne n'a bougé un doigt, hein, alors qu'ils étaient censés être protégés. Bon. Donc il y a ce risque, effectivement, hein, sur l'Ukraine, dans ce cas-là. Ça aurait un côté Sudète, effectivement, côté Munich, pour le coup, si ça devait être ça. Et c'est pas impossible que ça sera ça. Encore une fois, dans ce cas-là, c'est le scénario allemand. Quelles sont les alternatives? Les alternatives, je l'ai dit, sur le côté militaire, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en gros, il faut que les Ukrainiens continuent à servir de bouclier à l'Europe, jusqu'à ce qu'éventuellement, à un moment, l'Europe soit capable d'aider l'Ukraine à battre les Russes, sachant que les Européens n'ont pas envie de se battre. Donc, assez compliqué d'arriver à quelque chose. Sachant que, encore une fois, du côté européen, on est en plein syndrome du vainqueur de la guerre d'avant. C'est-à-dire que vous avez flemme de se battre, l'utilisation de recettes éculées comme les sanctions, en pensant que ça permettra de gagner, et une mésestimation de la détermination adverse, la détermination russe en l'occurrence. Ce qui a fait qu'on pensait, enfin, je veux dire, il y a 3 ans, il y a même il y a 4 ans, quand l'invasion a commencé, je vous rappelle ce qui a été dit. D'abord, on a passé des semaines à entendre que vraisemblablement Vladimir Poutine était mourant parce que s'il se lançait là-dedans, c'est qu'il était mourant et qu'il n'en avait plus rien à foutre de rien, c'était YOLO. Ce qui était complètement idiot, mais enfin, il faut se souvenir que ça a été dit. Parce que les gens qui n'ont pas vu quelque chose, plutôt que de se dire on a mal compris l'estimation de l'autre, c'est forcément moi j'ai eu raison, c'est que lui il est devenu fou. Bon, ça n'a aucun sens. La réalité c'est que Vladimir Poutine suivait une trajectoire qui était parfaitement prévisible, et la preuve c'est que je l'avais prévu. Donc, l'autre problème de ça, c'est qu'il y a cette idée où éventuellement les Européens pourraient dire non, non, mais c'est pas ça notre plan, on veut pas juste que les Ukrainiens meurent en attendant qu'il se passe quelque chose, ou en attendant qu'on soit capable de les aider. On espère que d'ici là, la Russie va s'effondrer encore, en gros, pour des raisons économiques, etc. Alors, la Russie, elle peut avoir des gros soucis économiques, mais il y a 2 raisons pour moi qui font que la Russie s'effondrera pas économiquement. Un, vous avez des pays qui sont soumis à des sanctions depuis des décennies, que ce soit l'Iran, que ce soit la Corée du Nord, ces pays-là sont toujours debout. Et ils ont, à de nombreux points de vue, moins de ressources internes que la Russie. Donc, imaginez ça, pas possible. Surtout que le pouvoir de Vladimir Poutine est vraisemblablement encore plus absolu aujourd'hui qu'il n'était il y a 5 ans. Les gens qui risquaient le plus de menacer le pouvoir, soit ils ont été butés, soit ils sont partis. Donc, très honnêtement, le contrôle. Vous savez, dans ce genre de guerre, c'est comme pour l'Allemagne nazie, hein. Si vous regardez le pouvoir d'Hitler en 1944, hein, en 1945, il était beaucoup plus absolu qu'il n'était en 1940. C'est-à-dire, au fur et à mesure, vous éliminez de plus en plus au motif de la guerre, notamment après l'attentat de 1944, l'opération Valkyrie, beaucoup plus absolu qu'au début, parce que vous éliminez tous les concurrents en interne. Et tous les gens qui se déclarent petit à petit ou qui essaient de comploter contre le régime, ils sont épurés. Donc vraisemblablement, le régime de Vladimir Poutine va devenir de plus en plus absolu jusqu'à ce qu'il tombe. Clairement. Bon. Et faire tomber ce genre de régime parce qu'il n'y a pas assez d'essence dans les stations-service, je pense que c'est un rêve. Hein. Je rappelle que le régime des Mollahs est encore, est encore sur pied, alors que ça fait des semaines qu'il n'y a plus d'eau dans la capitale. Ils sont en pénurie de flotte, quand même. Capitale 12 millions d'habitants, ça tient encore. Hein. Bon. Ça. D'autre part, en plus, la Chine a dit qu'elle ne voulait pas que la Russie tombe. Donc, c'est-à-dire que si, même si jamais ça commençait à baloter côté russe, les Chinois ne laisseront pas tomber la Russie. Donc ça, c'est l'autre problème qui fait que escompter que ça arrivera, c'est une illusion. Donc les Européens ne peuvent pas se cacher derrière cette idée que peut-être du jour au lendemain, tout d'un coup, la Russie va s'effondrer parce qu'on a mis des sanctions, etc., pour se dissimuler le fait qu'en réalité, ils continuent d'utiliser les Ukrainiens comme tampon pour pas avoir à se battre. Il faut l'avoir en tête. Du côté de Trump, c'est quoi le calcul? C'est toujours le même calcul du côté de Trump. Du côté de Trump, alors c'est arrêter la guerre en Ukraine, oui, bon, en même temps, bon, alors c'est sûr que Donald Trump a envie de rajouter une médaille de j'ai fait la paix quelque part, c'est sûr, c'est important. Mais le fondamental stratégique pour les États-Unis en général, c'est-à-dire en gros, ça serait Trump ou même un autre, ça serait peut-être pas tellement différent, c'est l'idée qu'il faut détacher la Russie de la Chine, parce que la confrontation avec la Chine s'affirme de plus en plus comme une possibilité. Et c'est très compliqué si la Russie est avec la Chine et si les États-Unis doivent se battre en même temps contre la Russie et la Chine. Donc c'est détacher la Russie de la Chine. Et dans ce calcul-là, une partie de l'Ukraine peut être un prix acceptable. Mais pas trop non plus. Pas trop non plus, parce que de l'autre côté, encore une fois, et ça, je sais quelque chose que je disais l'autre jour, ça me paraît important. Vous savez, parce qu'on dit, d'ailleurs, vous aurez peut-être vu passer quelque chose, alors c'est Little Think Tank, je lui ai dit que c'était faux, du coup il l'a corrigé, mais j'ai vu Cyril Amourski aussi le partager, lui je sais pas s'il l'a corrigé, même si je lui ai dit que c'était faux aussi. Il a partagé, hein, et je crois qu'à la base c'est Saint Javelin qui avait partagé ça sur Instagram, un extrait de Donald Trump qui parle pendant 2 minutes, et avec comment dire, un texte, une citation de Donald Trump. La citation de Donald Trump, en gros, elle dit un truc du genre ah, l'hiver va être froid, Zelensky peut continuer à se battre s'il veut, mais il faut qu'il sache que de notre côté, ça sera suspension de l'aide, etc. Et ça paraît vachement brutal comme phrase. Or, le truc, c'est qu'à aucun moment dans l'extrait, Trump ne dit ça, et je n'ai trouvé aucune source qui ait dit ça. Comme d'habitude, comme les autres fois. Et c'était le cas encore une fois il y a 2 mois, je rappelle. Hein. Il y a eu des échos comme quoi Donald Trump avait gueulé sur Zelensky en privé en lui disant il faut arrêter, on peut suspendre, etc. En attendant, jusqu'ici, Donald Trump n'a pas suspendu. Il a suspendu pendant une semaine après la scène dans le bureau ovale il y a 6 mois. Mais c'est tout. Suspension du renseignement. D'ailleurs, il faudrait poser la question, j'ai vu c'était Yakovlev qui se posait la question l'autre jour d'ailleurs, dans quelle mesure le renseignement militaire est encore très décisif du côté américain, en tout cas pas pour tout. Par exemple, quand les Russes frappent des raffineries avec des drones, bah, ils n'ont pas besoin des renseignements américains là-dessus. Ils ont peut-être besoin d'une forme d'autorisation américaine, et je pense que Donald Trump l'avait donnée, mais ils n'ont pas besoin du renseignement véritablement américain forcément pour faire ça, parce que c'est des trucs, vous les voyez, vous trouvez l'endroit sur Google Maps. Vous avez les coordonnées géographiques, vous pouvez frapper. Vous n'avez pas besoin de, bon, de renseignements particuliers. Enfin, peut-être que les Américains peuvent donner des renseignements supplémentaires qui aident à mener les frappes, mais voilà. Donc en tout cas, jusqu'ici, Donald Trump ne l'a pas fait. Donc on se demande pourquoi il le ferait cette fois-ci, en particulier, si les Ukrainiens ne veulent pas se battre, veulent pas accepter le deal. Par ailleurs, pour les États-Unis, laisser l'Ukraine s'effondrer, c'est un peu hors de question, de la même manière qu'il est hors de question pour la Chine de laisser la Russie s'effondrer. D'une certaine manière, ce conflit, à partir du moment où les Chinois en particulier ont dit que pour eux la Russie ne pouvait pas tomber, d'une certaine manière, ils ont fait du conflit un conflit aussi par procuration, dans la plus grande tradition de la guerre froide, entre eux-mêmes et les États-Unis. Donc ça fait que les États-Unis ne peuvent pas se permettre que l'Ukraine s'effondre. Et il y a peut-être aussi un côté dans cet accord qui est suggéré par Donald Trump, comme les nouvelles militaires ont été assez mauvaises depuis un mois ou 2 mois, il y a l'idée, il faut pas que l'Ukraine s'effondre, donc il faut bloquer avec une paix comme ça. Une paix armée avec 600 000 hommes, etc. C'est possible qu'il y ait quelque chose comme ça dans le raisonnement américain, en plus aujourd'hui. Il ne faut pas se le cacher. Donc Donald Trump, malgré tout ce qu'il espérerait, c'est essayer de récupérer, encore une fois, la Russie, mais ça, je vous ai déjà dit que de toute façon, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, selon moi. Ça ne peut pas arriver. Alors, la question, donc je vous disais, la Russie tombera pas, s'effondrera pas comme ça juste économiquement, il faudra plus que ça, et c'est pour ça que je pense que la guerre en ira. Encore une fois, si jamais ce deal était acté, je pense qu'on repart sur un scénario allemand. Alors j'essaie de réfléchir quand même, est-ce que historionomiquement on peut réfléchir à quelque chose d'autre, auquel j'aurais pas pensé, quelque chose qui ferait autre chose. La seule issue historionomique que je vois, en théorie, ça pourrait être un nouveau retour d'ancien régime russe, puisque vous savez que comment dire, un épariste revanchard qui est figé, qui est victorieux d'une certaine manière ou qui arrive à résister, peut donner un retour dans l'ancien régime. Ça, je l'ai déjà expliqué maintes fois, pour l'Iran, pour la Chine, même pour la France actuelle, et pour l'URSS. Si jamais Vladimir Poutine acceptait cet accord et arrivait à faire passer en Russie cette guerre comme une guerre existentielle qui a été gagnée, hein, un peu façon, ça n'était pas un impérialiste revanchard, mais dans l'esprit, je veux dire, ou plutôt tout simplement d'ailleurs comme l'Iran en 1988, hein, qui a pu estimer que ben, il avait gagné la guerre parce qu'il avait bloqué l'invasion irakienne. Et si Vladimir Poutine arrivait à déployer un récit en expliquant que, grosso modo, l'OTAN était sur le point d'envahir la Russie, qu'il a réussi à bloquer tout ça avec l'opération militaire spéciale, et que maintenant, patati patata, Empire russe, tout ça, ça pourrait ramener la Russie dans une espèce d'ancien régime. Normalement, pour avoir un nouvel ancien régime, il faut qu'il y ait une réhétérogénéisation grâce aux conquêtes. J'ai du mal à croire que ce qui a été pris en Ukraine pourrait suffire à ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, je veux dire, ça ressemblerait quand même tellement à Munich s'il y avait un accord de paix qui était fait comme ça, que je ne vois pas Vladimir Poutine ne pas chercher à escalader au-delà. Surtout qu'encore une fois, Vladimir Poutine n'est pas tout seul. Il serait tout seul, pourquoi pas. Mais il y a la Chine derrière. Et je ne vois pas non plus la Chine laisser la Russie rebasculer côté américain. Donc ça fait beaucoup trop de force, à mon avis, pour imaginer une alternative à une course normale d'impérialistes revanchards. C'est pour ça que je reste sur cette idée-là et que je suis convaincu que de toute façon, il y aura la guerre après. Donc là, encore une fois, la seule chose que pour nous, historionomes, ça change, cet accord, et c'est pour ça que faut pas prendre trop ce qui est proposé de manière trop émotionnelle, c'est que soit on ira encore une fois vers une guerre qui se continue, les Russes n'arrivent pas à avancer suffisamment, et ça donne un scénario japonais. Soit la guerre s'arrête grâce à ça, et on retombe sur le truc que je vous disais au début de la guerre, c'est-à-dire qu'à mon avis, il y aura une confrontation directe entre l'OTAN et la Russie, grosso modo 6 mois après une forme de règlement. Donc c'est-à-dire que vous aurez un cessez-le-feu, 6 mois après, à mon avis, on va sur une guerre OTAN-Russie. Clairement. C'est mon pronostic. Vous avez ensuite une hypothèse médiane, mais qui rejoint la deuxième, qui serait que tout d'un coup, le front ukrainien lâche effectivement. Et que les Russes arrivent à avancer. Et à ce moment-là, on retombe aussi sur un scénario allemand. Mais peut-être encore pire parce que l'armée ukrainienne aurait lâché. Voilà. Voilà ce que je vois. Mais donc, mon idée actuellement, très honnêtement, si je dois faire le point sur cette séquence-là, j'ai l'impression que cette séquence, on l'a vue déjà plein de fois. Donc, mon opinion majoritaire, dominante en tout cas, ce que j'incline à penser actuellement, c'est que le plan. Donc, présenté, fait un choc à tout le monde en Europe, etc. Les Européens se mettent du coup à discuter avec les Ukrainiens, vont discuter avec les Américains, vont essayer de micro-doser à nouveau d'autres trucs plutôt dans l'intérêt de l'Ukraine dans le plan. D'ailleurs, il y a eu une déclaration, je ne vous l'ai pas lue, mais déclaration des leaders européens en gros sur l'Ukraine qui disent que le projet constitue une base qui nécessitera des travaux supplémentaires. Nous sommes prêts à nous engager, donc il s'agit de brosser Trump dans le sens du poil dans l'effort qu'il fait. Tout en disant qu'il faut quand même reprendre le truc. Et le truc est signé à la fois par les Européens, par la Première ministre du Japon. Donc ça fait quand même du monde. Hein. Par von der Leyen aussi, donc qui représente l'Union Européenne, etc. Donc ça va faire un nouveau plan de paix. Enfin, avec donc le même plan, mais avec encore quelques trucs dedans qui seront plus à l'avantage de l'Ukraine et des Européens. C'est ce plan-là qui sera proposé aux Russes. Alors déjà que je vous ai dit qu'à mon avis, en l'état, c'était pas acceptable pour les Russes. Je pense pas qu'en l'état, les Russes puissent obtenir des concessions supplémentaires de la part des Américains, parce que les Américains savent qu'à ce moment-là, ça serait trop inacceptable pour les Européens et les Ukrainiens. Donc si en plus les Européens viennent rajouter des trucs qui vont dans le sens contre-russe dans l'accord, il est d'autant plus certain que les Russes ne l'accepteront pas. Donc très honnêtement, moi je pense que mon opinion majoritaire, ce que je pense majoritairement probable à ce stade, on va dire au moins 70%, c'est que ce truc ne sera pas signé. Ce truc ne sera pas signé Et même vraisemblablement que comme Vladimir Poutine ne sera pas content que ce soit pas signé, il va rebalancer une vague de missiles, un truc, un machin sur l'Ukraine, et que vous avez encore au moment d'aller se coucher Mélania qui va dire à Trump que Poutine est un enfoiré, et donc Trump qui va se réénerver sur Truth Social, etc., et on va repartir à nouveau sur un truc comme ça, avec peut-être à nouveau des sanctions, machin comme ça. Ça, c'est ce que j'imagine prioritaire. Et j'ai envie de dire, alors d'aucuns auraient l'air de penser peut-être que c'est ambitieux ce que je dis, mais en réalité, je l'ai facile de dire ça, puisque c'est ce qu'on a vu depuis le début de l'année. On a dû le voir 3 ou 4 fois déjà, le truc, la séquence. Donc très à mon avis, ça va donner ça. Je serais surpris que quelque chose d'autre se produise, mais encore une fois, si c'est ça que ça donne, de toute façon, dans quelques mois, je pense qu'on aura une guerre Russie OTAN. Pour les raisons que j'ai dit il y a quelques émissions et avec les pronostics que j'ai faits sur la façon dont ça se déroulerait. Et si jamais, effectivement, Trump arrivait à tordre le bras des Ukrainiens et à faire signer une espèce d'accord comme ça, ben, encore une fois, je pense qu'on retombe sur le scénario allemand et que de toute façon, dans 6 mois, il y aura autre chose, que les Russes se démerderont pour recréer une espèce de casus belli. En expliquant que c'est les Ukrainiens qui les ont envahis et que donc ils ne font que riposter, etc. Il y aura toujours des gens, que ce soit en Europe ou ailleurs, qui seront tout à fait prêts à croire ce genre de mensonge de la part des Russes, parce qu'ils auront envie de ça. Vous aurez même des gens en Europe qui le croiront par intérêt, parce qu'ils diront ouais, mais franchement, les Ukrainiens, ils n'ont pas été très clairs, parce qu'ils n'auront pas envie d'aller assurer les garanties de sécurité pour l'Ukraine. Donc, si c'est que ça se passe comme ça, voilà, à la fin, ça se passera pas mieux, d'après moi. Voilà. Donc, c'est pour ça, et c'est presque pour ça, j'ai envie de dire que j'ai failli pas faire d'émission, parce que je me disais, ça me paraît tellement encore une fois, on revient sur les trucs, j'ai l'impression que j'ai déjà tout dit et que j'ai fait que me répéter, que j'avais pas envie d'en parler, mais en même temps, ça me paraît normal de revenir commenter une telle actualité dont on parle énormément. Vraisemblablement qu'on aura encore l'occasion d'en parler très prochainement, puisque ça va faire l'actualité de toute la semaine, sans doute, avec les négociations. Voilà, je vais enlever ceci. Très bien, je vais essayer de me recentrer un peu et je vais regarder ce que nous avons eu comme éventuelles questions et dons. Je vois que notre cher ami Iruma, qu'on n'applaudit jamais assez dans le chat, et là, n'oubliez pas de mettre des pouces, j'ai oublié de le dire depuis le début de l'émission, mais n'oubliez pas. C'est excellent pour le référencement. Alors, je rappelle aussi que on pose la question qui a été la plus likée du dernier live, sous le dernier live, donc n'hésitez pas à aller poser des questions sous ce live une fois qu'il sera terminé, pas uniquement dans le chat. Et on y répondra, j'y répondrai lors du prochain live si c'est celle qui a été la plus likée. Alors, donc essayez de poser des questions intelligentes. La question là, alors qui est hors sujet, mais c'est pas grave, de Golgot 8832. Dans le cadre de la Révolution nationale française, vous parlez beaucoup du rôle de l'ultra-gauche et de la probable intervention russo-algérienne pour déstabiliser le pays. C'est pas tellement hors sujet, guerre par proxy. Dans ce scénario, quid des groupes d'ultra-droite qui ont d'ailleurs tendance à être pro-Ukraine et pro-Europe? Exemple Westcajol. Alors pas tous, hein, je pense qu'il y a des groupes d'ultra-droite qui sont aussi pro-russes. Mais ça dépend. Les pro-russes sont peut-être moins actifs. C'est peut-être plus des capitulars qui sont pro-russes et qui seraient prêts à que des gens qui seraient prêts à se battre. Donc aurait-il un rôle similaire au Freikorps contre la Ligue Spartakiste en étant une sorte de proxy américain? C'est tout à fait possible. Tout à fait possible. Alors les Freikorps c'est un peu plus compliqué. Les Freikorps c'était beaucoup plus large parce que les Freikorps c'était des soldats qui venaient d'être démobilisés. Donc, c'était des gens qui étaient déjà régimentés, donc c'était comme si demain, en gros, l'armée devenait paramilitaire, quoi. Mais c'était les militaires en fait, puisqu'ils venaient d'être mobilisés dans la guerre mondiale. Mais je pense qu'à ce moment-là, oui, à partir du moment où votre territoire devient le lieu d'une lutte par proxy, je pense que vous auriez des choses de ce genre-là, oui. Oui, bien sûr, les militants des deux ultras sont à ce moment-là exploités par l'étranger. Oui. Benalla a envoyé une souscription gratuite, on le remercie, hein, ça permet à Weshlongbo 5306 d'avoir accès à la totalité du catalogue de vidéos passées sur la chaîne. Samuel Beau, merci pour le don, qui me demande une guerre pour le territoire perdu de la France. Alors je ne sais pas de quoi il parle. Est-ce qu'il veut parler de ce qu'on appelle les territoires perdus de la République, c'est-à-dire le fait qu'on n'a plus le contrôle de certaines zones? Alors ce serait pas vraiment une guerre, sauf si on considère que c'est une guerre civile, mais je sais pas trop quoi dire de plus là-dessus. Ce qui est certain, c'est que dans le cadre de la Révolution nationale, encore une fois, il risque d'y avoir effectivement des épisodes de guerre civile dans les conditions qui ont été notamment mentionnées par la première précédente question qui a été posée. Et donc je pense que c'est tout à fait possible. Alors attends, je vais aller chercher. Je vais aller chercher, voir déjà sur les membres éventuels de la chaîne, s'il y a des gens qui se sont rajoutés. Je ne sais pas s'il y en a qui se sont rajoutés ce soir. Je vous rappelle que si vous souscrivez selon les différents degrés de souscription, vous avez accès à entre 4 et 5 heures de contenu supplémentaire par mois, entre les lives privés auxquels vous avez accès, ainsi que les bulletins géopolitiques toutes les semaines, et bien sûr le premier, encore une fois, le premier palier qui donne accès au catalogue de vidéos que vous pouvez revoir, et notamment toutes les essentielles, il y en a des dizaines et des dizaines d'heures. Non, on n'a pas eu de nouveaux souscripteurs cette semaine. Quel dommage, j'ai envie de dire. Si quelqu'un veut être le premier de la semaine à se rajouter, où est-ce que c'est? C'est là. Sur Tipeee. Sur Tipeee, on a eu un nouveau type de Antoine le 18 novembre. Je le remercie. Un de Yo-Yo le 16 novembre, je le remercie aussi bien vivement. Et c'est tout. C'est tout ce que nous avons eu depuis la dernière fois. Mais c'est déjà bien. Mais si vous voulez continuer à soutenir, n'hésitez pas non plus. Je pense qu'on a. Ah si, Iruma m'a rajouté une question. Une question chouard. La Russie pourrait-elle se disloquer de l'intérieur en plusieurs républiques? Alors je pense que oui, mais après sa défaite, pas avant, à mon avis. Il faudrait vraiment que le pouvoir central soit véritablement battu, comme le pouvoir allemand en 1945, par exemple. Voilà ce que je pouvais vous dire ce soir. Je vais vous laisser ici aller rejoindre nos chers souscripteurs dans le. Ah, il y a une nouvelle question. De Matt Broschiker, merci pour le don. Selon vous, quels pays sont secrètement sous le parapluie nucléaire français? Poutine s'arrêterait-il au pire sur le fleuve Oder? Je pense que sous le parapluie nucléaire français, on doit considérer qu'il y a le Benelux, probablement toute la rive gauche du Rhin d'ailleurs, ce qui représente également une partie d'Allemagne. J'aurais du mal à dire jusqu'où ça va. On a commencé à en parler avec les Allemands. On a commencé à en parler avec les Allemands, mais je pense pas qu'on aille jusqu'à la Pologne quand même. J'ai du mal à croire ça. J'ai du mal à croire ça. En plus, ça dépend, vous savez, ça dépend toujours en fonction de quoi. Même en Allemagne. Même en Allemagne, le parapluie nucléaire, ça veut dire qu'en gros, si l'Allemagne prenait un missile nucléaire, est-ce qu'on balancerait un missile nucléaire aussi? Oui. Est-ce qu'on balancerait un missile nucléaire si l'Allemagne était envahie par des chars d'assaut? Ben non. Même nous, vraisemblablement, on n'enverrait pas de missile nucléaire si on était envahi par des chars d'assaut. Enfin, ça dépendrait jusqu'où. Mais de la même manière que les Russes ne l'ont pas fait, alors qu'ils ont été envahis aussi sur leur territoire par les Ukrainiens. Donc, difficile à dire, mais à mon avis, ouais, rive gauche du Rhin, ouais, au-delà, gros doute. Et encore, même rive gauche du Rhin, ça dépend dans quelles conditions. Ça dépend quelle serait la menace qui taperait dessus. Voilà ce que je voulais vous dire donc ce soir. Je vais aller lancer le live privé des abonnés. Je vous dis merci de votre présence Ici, n'hésitez pas à partager les émissions sur vos réseaux sociaux en disant que ça vous plaît bien. Hein, ça permettra d'activer les abonnés. À bientôt pour de nouveaux formats. Et bien sûr, comme d'habitude... Ah, attends. C'est une autre question don. Alors, merci. Ça, décidément. Salut Fifi, petit soutien de Sydney. Ah, merci. Il est presque 9h du mat ici. Certains de vos souscripteurs investissent-ils dans des entreprises d'armement? Au vu de certains canaux, et notamment sur l'Académie Seldon, je suis à peu près certain que oui. Oui. Et puis, j'en connais personnellement qui le font. Notamment dans l'armement français, monsieur. Voilà ce que j'avais à vous dire, donc vous laissez pas faire.